Moi, je m'appelle Thomas, je suis un camarade de Toulouse.
Bonjour Thomas. Bonjour. Et bah, Mathieu. Et Josie.
Moi,
je m'appelle Josie, je suis membre du NPA de Perpignan, je suis aussi membre de la commission antiraciste du NPA. Et accessoirement aussi membre d'une association qui est liée à la FASTI à Perpignan.
Du coup, on va faire un topo en deux parties. Moi, je vais parler un petit peu de façon un peu générale sur la question de l'Europe, des États et la question de la frontière. Et je finirai sur la question de Frontex, de l'agence Frontex.
Moi, je ferai une intervention surtout sur la question des femmes et les frontières. Parce que, effectivement, les frontières telles qu'elles sont aujourd'hui font endurer des souffrances à tous les migrants, mais il y a un aspect très spécifique aux femmes et que j'essaierai de développer.
Voilà. Ouais, et grosso modo, on va faire des topos d'une vingtaine de minutes max, comme ça, après on pourra discuter. Et bien, du coup, j'attaque. L'idée dans ce topo, c'est un peu de discuter justement de la question de la construction européenne et le rapport que cette construction, que cet espace en construction, l'Europe, pose aux États nationaux et des contradictions se cristallisent sur la question des frontières. Si on prend la frontière comme symbole de la souveraineté, de la puissance des États, quand je dis la puissance, c'est notamment la frontière, c'est là où se déploie ce qu'on appelle le plus fortement ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnel, c'est-à-dire cette marge de manœuvre de l'État et des agents de l'État dans l'action, l'interprétation et la pratique de la loi. C'est cette zone grise, c'est pas forcément, c'est pas de l'arbitraire parce que ça reste encadré par la Constitution, etc. Mais c'est cette zone grise où effectivement l'agent de l'État et l'État en tant que tel conservent la plus grosse part de marge de manœuvre dans l'application de la loi. Et c'est notamment sur la question de la frontière où ce pouvoir discrétionnaire s'applique le plus. Et notamment parce que sur la frontière, la police qui s'applique, c'est une police administrative, pas une police judiciaire. Ça veut dire qu'y compris, c'est l'État directement qui, à un moment donné, décide d'une certaine application des lois et qui n'est pas régie par le judiciaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que dans la construction de l'État national, la frontière, elle symbolise aussi l'espace politique et l'espace de citoyenneté. On est dedans, on est citoyen, on a à la fois une part de pouvoir politique et des droits juridiques, on est dehors, on perd tout ça. Et dans la construction de l'État national, la question de la frontière, elle est centrale, puisque c'est là où se déploie à la fois l'exercice du pouvoir et en même temps là où l'État organise la citoyenneté et l'expression des politiques des citoyens. La construction de l'Europe, d'une certaine histoire, c'est la construction d'un espace supranational, c'est-à-dire qui d'une certaine manière, déplace le cadre des frontières ou l'amoindrit, voire le détruit. Et de fait, c'est directement, ça rentre en contradiction avec l'État national. Et si on prend le début de la construction européenne, le moment de la construction européenne, à partir de la fin des années 80 et toutes les années 90, et notamment le débat sur le traité de Maastricht en 92, la question des frontières est une question centrale. Y compris ceux qui au moment de Maastricht, la rhétorique pour le fait de voter le traité de Maastricht et de construire un espace européen, ça se fait notamment en voulant, on parle de abattre la tyrannie des frontières. On construit un espace qui sera un espace de citoyenneté transnationale européenne. Et donc l'idée, c'est vraiment de créer un espace supranational et un espace dans lequel la question des frontières sera remise en cause. Alors on est juste après la chute du mur de Berlin. On est dans un, où le débat se pose en termes de remettre en cause aussi ce qu'on appelle à l'époque la forteresse européenne. C'est assez intéressant quand on regarde vraiment les débats de l'époque. On est très très loin de ce qui se passe aujourd'hui du discours sécuritaire. Mais évidemment, cette construction-là, telle qu'elle est en tout cas proposée au débat, très rapidement, elle va achoper. Et notamment, le projet de constitution européenne est rejeté parce que, effectivement, le passage à une citoyenneté supranationale et à un espace politique européen brise, en fait, sur la question de la souveraineté de l'État. Et en réalité, le dénominateur qui est trouvé, c'est de laisser la question de l'identité de la citoyenneté attaché au cadre de l'État national. En réalité, à partir de Maastricht, là, il n'y a plus de remise en cause réelle de l'État national et de cette question de la souveraineté. Et donc, la contradiction au niveau des frontières reste. Et en fait, c'est cette contradiction entre, d'une part, une construction européenne qui, malgré tout, se poursuit et qui rabote des parts de la souveraineté nationale, on pense soit le marché commun, la monnaie unique, la Banque centrale européenne, tous ces effets qui quand même enlèvent aux États une partie de leur souveraineté. On a ça d'une part, et de l'autre, on a quand même un discours qui de volonté de maintenir le cadre national. Et donc ça se cristallise, cette contradiction-là, sur la question des frontières. D'autant plus que l'espace européen continue de s'élargir. Entre 90 et les années 2000, on a une série d'États qui rentrent dans l'espace européen. Et donc, on a un espace qui continue de s'élargir, d'agrandir son territoire, mais aussi avec, en même temps, un cadre national qui reste au centre de l'espace européen. Et donc, l'État national reste. Et en somme, il n'y a pas de dépassement de ce cadre central de l'État national. L'autre versant de ce que Baliba appelle le stato-nationalisme, donc c'est l'autre versant de l'impossibilité à sortir de ce cadre de l'État national, c'est justement la question migratoire et l'impensé de l'héritage colonial au niveau européen. Quand on pense à la construction européenne, le cœur de l'Europe, ce sont des puissances coloniales. C'est la Belgique, la France, l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne. Or, cette question de la migration en Europe, c'est un impensé. Et cette question notamment de l'héritage colonial, et donc du rapport avec les anciens pays colonisés, est évacuée du débat sur la construction de l'Europe. Il est évacué du débat, mais en fait, il revient très rapidement comme... il revient très rapidement avec l'essor du discours sécuritaire. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'espace européen s'élargit, la question, elle devient de comment on protège cet espace de l'extérieur. Là où, au début de la construction, dans les années 90, on est sur une projection de l'espace européen en tant que projection politique culturelle de l'Europe, vis-à-vis des voisins, notamment de la Méditerranée, etc., la Turquie. On est en débat avec la Turquie pour savoir si on l'intègre à l'Europe, etc. Je tiens que au milieu des années 90, à la fin des années 90, la Turquie, elle est candidate à rentrer dans l'Europe. Et les débats sont sur comment on va faire rentrer la Turquie dans l'Europe. Sauf que plus on élargit l'espace, et plus on rentre aussi dans un autre moment, qui est celui de... l'après 11 septembre 2001, et on rentre dans un moment politique qui est celui de la droitisation du discours, mais surtout celui de la sécurisation enfin ça c'est le mot anglais, la sécurisation, on pourrait dire le moment sécuritaire, où le discours il est plus de comment on projette l'idéal européen, et notamment la question des droits de l'homme, etc., et comment on organise le rapport avec les voisins, mais comment on protège l'espace européen de toutes les menaces qu'on considère, dans le discours, toutes les menaces qui émergent, notamment terrorisme, évidemment, mais aussi migration. Et cette rhétorique, qui est une rhétorique réactionnaire et de stigmatisation des étrangers, elle se déploie de deux façons, c'est-à-dire qu'il y a la création de l'ennemi interne et de l'ennemi externe, c'est-à-dire que très rapidement on parle des vagues migratoires. À partir de 1997, il y a la première crise aux Canaries, où vous avez des migrants qui partent du Sénégal, des jeunes qui prennent des bateaux, dont la moitié crève en mer, mais arrivent aux Canaries. Et ça, c'est le premier moment en 1997 où on a une crise migratoire. Alors, on pourra revenir sur le mot de crise, hein, parce que je pense que c'est pas une crise où on n'assiste pas à des crises migratoires, on assiste à des crises de l'accueil. Mais toujours est-il que c'est la première fois qu'on parle de crise migratoire. Et plus on avance, et avec effectivement, après le 11 septembre 2001 et la question du terrorisme, où grosso modo, on a la création de à la fois un ennemi extérieur, les vagues migratoires, qui sont à la fois problématiques parce que tous ces gens qui arrivent de manière illégale, mais on traite généralement à la fois la migration et la question du terrorisme ensemble. Donc il y a cet ennemi-là de l'extérieur et à l'intérieur, les migrants qui sont une menace culturelle pour nos sociétés, puisque ce sont des gens qui sont qui ne peuvent pas s'intégrer, qui ne partagent pas nos valeurs, etc. Et si on regarde l'évolution du discours dans les années 2000 jusqu'à maintenant, ce discours-là est devenu central. C'est-à-dire qu'on a un déplacement, avant ce discours, dans les années 90, au début des années 2000, resté un discours, on va dire, à la marge du champ politique. Aujourd'hui, c'est le discours central. C'est-à-dire que si vous écoutez Macron, on prend ce qui s'est passé en Afghanistan, le premier discours qu'il fait, c'est pour nous dire que, grosso modo, oui, c'est une catastrophe ce qui se passe en Afghanistan, mais ne vous inquiétez pas, on va devoir faire face à des vagues migratoires et on va protéger le pays de ces vagues migratoires. C'est-à-dire que là, ce n'est pas Le Pen, c'est Macron. Et Macron qui, donc, de fait, emploie cette rhétorique de la menace et de l'ennemi extérieur. Et si on prend celui de la menace de l'ennemi intérieur, c'est-à-dire une menace à la fois culturelle et économique, de gens qui seraient incapables de s'intégrer à nos sociétés, ou en tout cas qui menacent la fabrique sociale parce qu'ils menacent le droit des femmes, parce qu'ils sont violents, etc., etc. Ce discours-là est devenu central. Il est devenu central en France, il est devenu central dans toute l'Europe. Et on a une radicalisation de ce discours. Mais évidemment, la radicalisation du discours, elle s'accompagne d'une radicalisation des pratiques, c'est-à-dire du traitement militarisé des frontières et des migrations. Et des migrants, c'est-à-dire que la façon aujourd'hui dont les États membres de l'Europe et l'Europe elle-même traitent les migrants en mer, sur les frontières, c'est un traitement militaire. Y compris, vous avez un écrivain italien célèbre, comment il s'appelle ? De Luca ? Non.
De Luca.
Qui a une phrase fantastique, enfin, qui est à la fois terrible, et lui, il parle de crimes de guerre en temps de paix. Et je pense que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a l'Europe et les États européens qui organisent une répression militarisée, donc militaire, sur les populations civiles. De fait, la Méditerranée aujourd'hui, c'est un champ de bataille, où on est à entre 15 et 20 000 morts. En Méditerranée. Et ces 20 000 morts, d'une certaine manière, ils sont provoqués par l'action des États membres et de l'Europe. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que si on prend la création justement de l'agence Frontex, donc c'est à partir de, elle est créée en 2005, mais effective à partir de 2006, en réalité, on se situe dans un moment particulier de la construction européenne, qui est à la fois celui de l'élargissement, c'est-à-dire l'arrivée d'un certain nombre de pays, Hongrie, Pologne, etc., au début des années 2000, l'après 11 septembre, et la création de l'espace Schengen. Or, l'espace Schengen, c'est d'une certaine manière l'effacement des frontières internes. Et au moment de Schengen, c'est le gros débat, c'est celui qui a lieu, c'est, ok, on efface les frontières internes pour les citoyens européens, évidemment. Donc c'est pas une disparition réelle des frontières, c'est un effacement des frontières pour les citoyens européens, mais par contre, il faut absolument qu'on protège l'espace européen, et le problème, quand je dis « on », enfin, discours, le problème que ça pose, c'est les pays qui sont nouveaux arrivants et les pays du Sud qui ne vont pas bien faire le boulot, qui ne vont pas être en capacité de sécuriser leurs frontières. Et donc, on crée l'agence Frontex, qui d'abord au départ s'appelle l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures. Le budget de Frontex en 2006, c'est 6 millions. Aujourd'hui, c'est 322 millions. En 15 ans, ça a été multiplié. Je ne suis pas bon en pourcentage, mais enfin, c'est assez incroyable l'explosion du budget de Frontex. Mais toujours est-il que c'est créé au départ Frontex pour s'assurer que les pays du Sud et les grosses zones de l'Europe et les nouveaux arrivants vont pouvoir gérer la gestion de leurs frontières extérieures. Au départ, cette création, cette coopération, elle a des difficultés à se mettre en marche. Parce que malgré tout, les États, en tant qu'États souverains, rechignent tous, malgré tout, à coordonner l'action sur leurs frontières extérieures. Enfin, il y a une volonté de garder pouvoir national sur la question des frontières. Mais comme en même temps, on a un discours et une pratique qui est celle de « il faut absolument sécuriser les frontières extérieures », il faut bien arriver à résoudre cette contradiction. Et donc c'est la création de Frontex. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la création de Frontex, donc dans l'espace autour, avec en même temps la création de l'espace Schengen, je parlais d'effacement des frontières, parce que alors qu'on crée Frontex, donc on crée cette agence qui s'appelle maintenant, d'ailleurs, elle a changé de nom, qui s'appelle l'Agence européenne de garde frontières et garde côtes, parce qu'y compris à partir de 2015, on renforce les pouvoirs de Frontex, qui y compris peut obliger des États à agir et peut directement intervenir à la fois dans l'espace européen, sur les frontières de l'espace européen, mais à l'extérieur de l'Europe. Vous avez les premières opérations, notamment en Albanie, qui ont eu lieu en 2020. L'Albanie ne fait pas partie de l'Europe. Pourtant, Frontex y opère. Donc ça veut dire qu'on a là une agence européenne de garde-côtes, avec une partie de fonctionnaires qui sont détachés par les États, une partie qui est directement recrutée par l'agence Frontex, donc sont des fonctionnaires européens, des gardes-côtes, etc., qui interviennent comme une force militaire, une force de police, à l'extérieur, dans des pays étrangers à l'Europe. Mais au même moment qu'on déploie Frontex à l'extérieur, il y a ce qu'on appelle, nous, et j'ai fini là-dessus, ce qu'on appelle les effets de frontiérisation. C'est-à-dire que, alors que dans l'espace Schengen, les frontières se sont effacées, c'est-à-dire que vous n'avez plus le douanier avec le poste de douane, etc. En réalité, les frontières se jouent maintenant dans l'ensemble des espaces nationaux. Ça veut dire qu'un migrant qui rentre en France par la frontière à Hendaye, Lui, la frontière, il va l'avoir partout, c'est-à-dire avec la PAF, des douaniers qui vont contrôler dans un train qui va faire Hendaye-Bayonne. Il va se faire contrôler à la gare de Toulouse. Il va monter dans un bus et on va lui demander, même pas les flics, hein, mais le chauffeur du bus va lui demander ses papiers. Bref, là où nous, les frontières s'effacent, en réalité, la frontiérisation, elle se déplace et la frontière se déploie dans l'ensemble de l'espace. Et je pense que c'est important, à mon avis, hein, c'est important de comprendre que si on en revient à ce que je disais au tout début, c'est-à-dire sur les faits, sur la question du pouvoir discrétionnaire et sur le fait que la frontière, c'est l'espace où l'État applique de la manière la plus forte ce pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire sans contrôle judiciaire, eh ben, ça veut dire que l'effet de frontiérisation, on rentre dans une société où, en réalité, l'État déploie le pouvoir discrétionnaire le plus fort partout. Avant, c'était à la frontière, dans les aéroports. Aujourd'hui, ce pouvoir-là, il se déploie au sein de notre société, dans les villes, dans les campagnes, dans les transports en commun. Et je pense que, au-delà de la question des migrants, c'est la question qu'on doit se poser, c'est dans quel type de société on rentre quand effectivement la part la plus arbitraire du pouvoir se déploie de façon continue et sur l'ensemble de l'espace. Et j'en ai terminé là, ça fait 20 minutes.
Bon, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, mon propos c'est de mettre en lumière la question de la migration féminine. Mon propos c'est pas de dire que les femmes souffrent plus que les hommes dans les passages et dans leur parcours migratoire, mais il y a quand même une spécificité qu'il est important de mettre en lumière. Bon, évidemment, sur la préoccupation de la situation des femmes, par nos États, la déclaration de Macron sur l'Afghanistan, ben, elle résume tout, elle n'a rien à foutre de ce qui se passe pour les femmes en Afghanistan, ni pour les autres d'ailleurs, mais bon, voilà, ça montre bien. Je vais juste commencer en disant que, rappeler que le 5 juin à Nice, il y a eu plusieurs milliers de militants ou militantes à l'appel de toutes aux frontières, et je trouve que je vais commencer par ça parce que ça donne le cadre un peu de ce que je veux développer. Bon, l'appel de toutes aux frontières à Nice, qui va d'ailleurs avoir un autre appel en septembre, je crois en octobre. Depuis 2015, l'Union européenne essaie de durcir ses politiques frontalières, toutes intérieures qu'extérieures, rendant la migration d'autant plus criminalisée. L'espace Schengen ne cesse de renforcer un arsenal répressif à l'égard des personnes contraintes et exilées. Cette situation ne fait que développer des économies mafieuses dans lesquelles s'articule toute forme de violence faites aux exilés. Ces politiques de criminalisation de la mobilité pèsent particulièrement sur les femmes qui représentent 54% des migrants en Europe, notamment les lesbiennes et notamment les lesbiennes et les personnes trans. Durant la trajectoire migratoire, toute personne non conforme à l'ordre patriarcal est cible de violence. Il est grand temps de déployer nos forces pour rendre visible ce qui ne l'est pas. Voilà, je crois que ça ouvre ce que je voulais dire, parce qu'effectivement, la migration féminine n'est pas aussi visible que l'ensemble des migrations. Et il est important de porter un regard genré sur ces migrations d'hier et d'aujourd'hui, d'ailleurs, et de laisser la parole aux femmes qui prennent le chemin de l'exil. Pour faire ma présentation, je me suis appuyée sur plusieurs documents qui mettent en avant justement les témoignages et la parole des femmes. Et donc, je vous conseille la lecture. Ça s'appelle « Les damnés de la mer » qui vient de sortir sur les femmes et frontières en Méditerranée, et puis un autre livre qui s'appelle La voix du sepulcre, qui est pas à la parèche en ce moment, mais qui est un bouquin extraordinaire sur la permanence en psychiatrie qui reçoit les migrants à l'hôpital de Bobigny, une des rares d'ailleurs permanences qui existe. Bon, je vais juste commencer en disant que les migrations féminines ne sont pas une nouveauté et qu'en plus, c'est un phénomène massif. Comme on dit tout à l'heure, d'après les chiffres de l'ONU, 54% des migrants sont des femmes, alors pas en Europe, mais en général dans la population mondiale. D'après l'OMI, l'Office international de migration, 30% des personnes qui traversent la Méditerranée sont des femmes, 30% qui arrivent en Europe. Ça ne veut pas dire 30% de ceux qui partent, parce qu'évidemment, ça fait beaucoup plus quand on parle des départs de l'Afrique, etc. Et que les morts le long du chemin de l'exil, les femmes sont souvent plus impactées que les hommes, pour diverses raisons, soit en mourant sur le chemin de l'exil, soit en n'arrivant jamais à passer les frontières. Et malheureusement, c'est un chiffre morbide mais réel, c'est qu'à partir de 2016, quand des chercheurs italiens ont commencé à comptabiliser les morts en Méditerranée et essayer de reconnaître aussi les personnes disparues, une sur deux étaient des femmes. Voilà. Donc elles payent vraiment un très très beau tribut à ces politiques migratoires dont a parlé Thomas. Mais elles ont toujours fait partie des mouvements migratoires importants internationaux. Par exemple, quelques chiffres en France en 1911, 47% de la population immigrée est des femmes. Participer aussi au marché du travail. En Italie, dans les années 60, de nombreuses femmes africaines, d'Érythrée, Somalie, Éthiopie, qui venaient seules, et pas du tout dans un groupement familial, mais qui venaient seules au travers des églises qui vont en Italie avec des liens évidemment avec l'Éthiopie, l'Érythrée, etc. Et donc les églises ils faisaient le lien pour que les familles en Italie qui ont besoin de domestiques soient rapatriées en Italie. Donc c'est une vieille histoire, la présence des femmes dans l'immigration mondiale. Après-guerre, il y a eu des milliers de travailleurs et de travailleuses qui sont arrivés en Europe parce qu'il y avait des possibilités d'emploi. Et c'était pas la même période, et parce que ça correspondait à des opportunités d'emploi, mais c'était massif. Bon, au niveau mondial, je pense que c'est aussi important, c'est en parlant de migration féminine, c'est comment elles sont traitées, dans le marché du travail, qu'est-ce que ça veut dire. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant, il y a des chiffres de l'ONU aussi qui dit qu'il y a un travailleur domestique sur six est un migrant et que 74% des travailleurs domestiques sont des femmes. Donc la formule de Michel Agier comme quoi les femmes sont les servantes de la mondialisation est un terme que je trouve tout à fait pertinent. Mais la participation massive des femmes aujourd'hui, alors je parlais un peu plus des femmes qui viennent d'Afrique, mais je vais aussi aborder un peu le reste. Leur présence aujourd'hui, leur seule présence massive, ça fait partie vraiment intégrante de la résistance aux politiques migratoires. Elles transgressent en fait, et c'est ça qui est important de voir, c'est qu'à la fois elles transgressent au péril de leur vie, à la fois le rôle qu'on leur assigne dans le pays d'origine, et celui que l'Union européenne voudrait leur imposer. Donc ça, c'était pour dire qu'elles sont présentes et qu'elles sont pas, elles sont peut-être plus invisibles que les hommes, mais elles sont présentes de façon massive et elles sont au sujet de leur histoire. Juste dire d'abord que ce soit du départ jusqu'à l'arrivée, et pas l'arrivée... Je verrai tout à l'heure en ce qui concerne les frontières, comme l'a dit Thomas, ce que ça signifie. Mais du départ à l'arrivée, Ce qui les a jetés sur le chemin de l'exil, c'est une violence qu'elles subissent en continuant du début à la fin. Et c'est une violence genrée, parce que pourquoi elles partent, même si quelquefois elles partent sans espoir de retour, et même si elles savent un peu ce qui peut se passer, mais pas trop, elles partent pourquoi? Parce qu'elles sont victimes des guerres. Alors, les guerres, on sait que surtout au territoire africain, etc., mais ailleurs aussi, elles sont victimes des guerres, elles ont peur de, pardon, des destructions, de la misère, etc. Mais surtout aussi, parce que la plupart du temps, elles font dans leur corps, justement, comment dire, elles sont victimes de viols comme armes de guerre. Et ça, ce sont des exemples, par exemple, le Sheba en Somalie, qui enlève les femmes, les jeunes filles, les célibataires, etc., pour les marier de force et pour objets sexuels. On sait ce qui se passe en RCA ou en République du Congo. Le viol est vraiment, constitue vraiment une arme de guerre pour briser toutes les instances de l'ennemi. Bon, ça c'est la première chose, elles partent parce qu'elles sont aussi donc, ces victimes-là. Elles partent aussi parce que dans un cadre familial traditionnel, comme il existe dans beaucoup de sociétés traditionnelles, eh bien, elles partent pour échapper au mariage forcé, à la polygamie, aux mutilations sexuelles, à l'orientation sexuelle qui ne va pas dans le cadre du patriarcat. Donc, c'est aussi des raisons qui sont propres aux femmes, cette motif de départ. Il y a aussi, elles sont victimes de la traite des êtres humains. On sait en particulier que beaucoup de jeunes femmes qui viennent du Nigeria en Europe sont victimes de la traite des êtres humains. Elles sont pour la plupart mineures, elles sont soumises à la terreur, au recours de pratiques rituelles traumatisantes, à des chantages, extorsion de fonds. Enfin, donc voilà, c'est aussi un des cadres pour lesquels elles s'en vont. Il y a aussi leur statut de femme dans beaucoup de sociétés. Des célibataires, des veuves, des mères célibataires n'ont plus le droit de citer dans une société traditionnelle. Ce sont des femmes en surplus, comme on dit, hein, et qui n'ont plus aucun espoir dans ces sociétés-là. Et enfin, pour finir, souvent, dans le livre de Camille Schmoll sur les damnés, elle disait qu'elle avait beaucoup rencontré parmi les femmes qu'elle avait interrogées des sœurs, des aînées des familles, c'est-à-dire des femmes qui pensent que elles vont ouvrir la voie, elles portent sur elles le poids de la migration pour les autres, pour leur famille, etc. Donc, c'est tout un ensemble de choses qui montrent que depuis le départ, le continuum de la violence va s'appliquer, va être victime de ces violences. Ensuite, sur le coup de l'exil, évidemment, on le sait, c'est au vu de tous, hein, ce qui se passe en Libye, tout le monde le sait, c'est largement documenté, mais de toute façon, au contraire, on continue à soutenir le régime libyen. Donc je vais revenir là-dessus, mais la succession d'obstacles qu'elles rencontrent, que les migrants rencontrent, elles en particulier, c'est une vie qui est constamment mise en danger. Parce que la frontière, comme a dit Thomas, la frontière sur le continent, c'est déjà partout, mais la frontière que les migrants et les migrantes doivent passer, c'est un couloir sans fin. Avec l'extermination des frontières, il y a des frontières partout, en Afrique, partout. Le Niger est bien payé pour faire des frontières pour garder ses ressortissants. Il faut qu'elles franchissent les frontières du Niger, les frontières de l'Algérie ou du Maroc. Et puis ensuite, il y a la Libye et puis la Méditerranée, là, c'est une frontière infranchissable. Donc la frontière, c'est un couloir sans fin. Et comme il n'y a plus depuis les années 2000 aucune voie légale pour sortir de son pays, pour fuir, eh bien, Là, on suit les voies les plus dangereuses et de plus en plus dangereuses. Donc, en fait, dans ce parcours migratoire, évidemment, la promiscuité, la soif, la faim pour échapper aux gardes frontières, mais aussi le danger permanent pour elle, les agressions sexuelles et les viols, et où l'obligation de se prostituer pour continuer le voyage. C'est l'expression même de tous les témoignages qui sont là et qu'on voit ou pas. L'externalisation des frontières sur le continent africain, et surtout l'externalisation, donc, par exemple, tous les États du pourtour méditerranéen sont largement payés par l'Europe pour jouer les cartes choumes de leur population, et ils le jouent très bien. Donc, les frontières au Maroc, les frontières en Libye, bon, donc c'est quelque chose qui renforce tous les obstacles que les migrants et les femmes en particulier ont à passer. Thomas a parlé de Frontex, j'ai trouvé que c'était vraiment une expression incroyable de cynisme. En 2018, l'agence Frontex, qui était une véritable armée pour empêcher les migrants d'arriver, déclarait dans un tweet, le jour de le 25 novembre, le jour de sur la question des violences féminines, aujourd'hui c'est la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Comment les gardes frontières peuvent-ils aider à protéger les femmes et les jeunes filles? Les officiers de Frontex identifient les victimes de la traite d'êtres humains qui sont souvent victimes d'abus, de violences et d'exploitation sexuelle. C'est-à-dire qu'ils osent raconter ça, parce qu'effectivement, la question, c'est la lutte contre les passeurs. C'est comme ça qu'ils voient la situation de protection des femmes, c'est-à-dire la lutte contre les passeurs, c'est-à-dire empêcher à tout prix que les migrants qui sont de l'autre côté de la Méditerranée puissent arriver sur les territoires de l'Europe. Donc, cette militarisation des frontières dont a parlé Thomas, qui arrive aussi, et qui est, donc, je veux dire, la Méditerranée, c'est un champ de bataille, mais c'est aussi un champ de... Il y a les processus les plus avancés de surveillance. Vraiment, c'est une manne pour toutes les sociétés de surveillance, etc. C'est cette militarisation sur les frontières et ce soutien inconditionnel quand même à la Libye. Macron leur a envoyé des bateaux et puis maintenant c'est les Libyens qui gardent les frontières en fait, hein, qui empêchent, qui sont les seuls c'est les seuls qui peuvent arraisonner les bateaux qui partent. Donc c'est cette militarisation des frontières qui fait que les femmes et les migrants et les femmes en particulier peuvent rester des mois, des années ou jamais ou des semaines dans les prisons libyennes, à la merci des bandes armées, tortures, viols. Encore une fois, Camille Chivol disait que parmi toutes les femmes qu'elle avait interrogées, elles avaient à 90% été violées dans les prisons libyennes. Donc c'est la militarisation des frontières qui fait ça. C'est la militarisation des frontières aux frontières de l'Espagne qui empêche donc les gens de passer. Et qui pousse et qui oblige les femmes et les migrants, et surtout africains et d'Afrique de l'Ouest, à subir d'une part une chasse aux noirs dans les frontières, aux frontières de Ceuta et Melilla, c'est vraiment une chasse à l'homme, mais aussi à la femme, et oblige les femmes à rester pendant des mois, des années, etc., peut-être des semaines, dans ces forêts, aux alentours de Melilla et Ceuta, où ces forêts sont organisées d'une façon tout à fait patriarcale par des hommes qui ont la main sur les femmes. Les femmes qui arrivent là, elles sont obligées d'être dans les tentes à côté du chef du village, là, enfin, c'est pas du village, mais bon, voilà. Et elles sont utilisées à la fois pour aller faire la manche, pour nourrir tout le monde, et puis se prostituer pour avoir un peu de sous pour pouvoir passer la frontière. Et cette violence continue à s'exercer par la mise en œuvre d'une stratégie de voyage qui est spécifique aux femmes, et qui accentue la violence, c'est-à-dire beaucoup de femmes disent que bon, expriment des trucs épouvantables, donc ouais, elles essayent d'être enceintes avant de prendre le bateau, parce qu'évidemment, c'est l'état médias, elles ne peuvent pas sauter par-dessus les grilles, donc elles prennent le bateau quand elles peuvent. Donc des grossesses contraintes, des prostitutions et une humiliation terrible, bon, parce que les femmes qui ont leurs règles ne peuvent pas monter sur les bateaux. Parce que ça porte malheur et ça attire les requins. Hein. Donc, quand une femme monte sur un bateau qui doit traverser Ceuta Melilla, on passe la main sous sa robe pour voir si elle a des règles ou pas. C'est un ensemble hallucinant de violences qu'elles sont obligées de subir. Et ce sont les mêmes pratiques migratoires, les mutualisations qui engendrent une violence terrible aux frontières de l'Europe, de l'autre côté. Il y a des milliers de gens, en 2021, il y avait 5800 migrants à la frontière de la Bosnie qui ne pouvaient pas rentrer en Europe parce qu'ils étaient repoussés par la Pologne. Bon, il y a eu une délégation de députés européens qui sont allés voir l'horreur de ce qui se passait. Bon, et l'expression, une des députées avait déclaré que l'enfer s'appelle Lipa. Lipa, c'est un des centres de la Bosnie qui a d'ailleurs volé, où les gens étaient dans la boue. Il y a quelques semaines, une petite fille de 3 ans a été retrouvée dans la boue saignante parce qu'elle a été violée. Bon, donc, toutes ces choses-là, ça montre évidemment ce que les frontières font aux femmes. Voilà, donc, ce que les femmes subissent en tant que
psychologie. Ça fait 18 minutes.
Oula, je vais me dépêcher. Bon, d'accord. Donc, voilà ce que les frontières font aux femmes et la militarisation des frontières font aux femmes. Bon, maintenant, une fois qu'elles sont arrivées, je vais peut-être prendre 5 minutes en plus. Bon, maintenant, une fois qu'elles sont arrivées en Europe, que les migrants sont arrivés en Europe, c'est pas fini, bien sûr, c'est pas fini. La frontière continue. C'est-à-dire que en Grèce, en Italie, puis bon, maintenant du côté de l'Est, les frontières sont fermées. Mais quand on arrive là, en fait, ce qui se passe pour les migrants et pour les femmes en particulier, c'est une criminalisation de l'immigration par l'encampement et l'enfermement. Puisque ce qui se passe à Moria, c'est abondé depuis quelque temps, mais il y avait 16 000 personnes dans ce camp en Grèce pour 3 000 places. Et évidemment, ce n'est pas la préoccupation vis-à-vis des femmes. Il y a eu un rapport d'Amnesty International qui disait clairement que là, elles étaient complètement en danger absolu. C'est-à-dire, pas d'eau, pas de nourriture à peine, pas de protection sanitaire, rien pour les femmes enceintes. Enfin, tout était là. Et c'est la même chose pour les campements, les centres d'enfermement à Malte, qui est aussi une des étapes, c'est carrément la criminalisation par l'enfermement, campement en tout cas. Bon, c'est une situation qui les met encore dans une attente et une violence terrible de ne pas savoir quand va s'arrêter en fait cet exil et quand est-ce qu'elles vont être enfin arrivées, parce qu'elles arrivées jamais, quoi, hein, puisque bon. Les frontières, elles vont jusqu'à, même quand elles sont arrivées, les frontières, elles vont jusqu'à l'OPA, jusqu'aux portes de la préfecture, et c'est un éternel recommencement. L'attente qu'on leur impose, que ce soit aux marges de l'Europe, ou ensuite, quand ils ont déposé leur dossier, etc., c'est en fait une technologie d'assujettissement extrêmement puissante, et qui confinent les personnes hébergées à une attente, à une situation subalterne, ne peuvent rien faire, rien, sauf, voilà. Bon, je vais finir, parce que bon, je ne vais pas trop... simplement rappeler l'arbitraire de l'asile, hein, et en particulier, bon, en France, on peut le savoir, parce qu'on sait quand même qu'il y a que 30% des gens qui ont l'asile, ça veut dire que 70% ne l'ont pas, voilà, c'est-à-dire que là, et que la préoccupation pour les femmes n'a absolument rien à voir avec ça. Le fait qu'on puisse renvoyer des femmes dans des pays soi-disant sûrs, l'Afghanistan était un pays sûr il n'y a pas très longtemps, hein, l'Algérie, le Maroc, l'Albanie, ce sont des pays sûrs. Donc les femmes qui subissent des tas d'oppression là-bas, ben, on peut les renvoyer sans aucun problème. Donc, évidemment, donc, la façon dont on accueille les gens, bah, c'est au rabais. Hein, c'est une crise de l'accueil et pas du tout une crise d'immigration. Et au rabais, rien n'est mis en place, effectivement, pour se préoccuper d'un peu d'humanité et encore moins pour les femmes. C'est ce qui s'est passé à Calais. Hein, les milliers de femmes, les milliers de personnes qui étaient à Calais, il n'y avait à strictement rien, sauf les ONG qui se sont préoccupées de la santé des femmes qui étaient en danger. Je finirai là-dessus en disant que toutes ces paroles de femmes qui sont exprimées dans tous ces ouvrages que je vous conseille donnent une idée à la fois polymorphe, contradictoire de la migration féminine. Elles se voient en fait dans leur témoignage, elles se voient comme combattantes et comme victimes, ou les deux à la fois, mais toujours comme sujet de leur histoire. C'est-à-dire, elles sont parties et c'est elles qui décident au fur et à mesure de ce qui va se passer. Et en fait, la transgression des frontières politiques, raciales et sexuelles qu'elles doivent mener en permanence et ensemble en fait d'elles vraiment des résistantes au quotidien. Donc, je voudrais juste finir pour dire aussi que pour arracher leur droit de circulation, leur vécu, leur stratégie diffère, elles sont oui, différentes et elles mettent au cœur des problématiques différentes, c'est-à-dire le corps en tant que tel. Ces femmes, le corps de ces femmes sont marqués par des abus massivement, des abus sexuels, des grossesses contraintes. Elles vivent souvent leur corps comme, à la fois comme un handicap qui les rend vulnérables, mais aussi comme un outil. Bon, c'est quelque chose de... Ce qui montre l'importance qu'il y ait des espaces de solidarité pour dire ces questions-là, c'est-à-dire la question du viol, la question du rapport à la maternité, laisser ses enfants, garder ou pas les enfants du viol, quelle signification le risque d'accoucher dans un bateau qui va couler. Donc ce sont des choses absolument épouvantables qu'elles vivent. Et il n'y a aucun espace pour qu'elle puisse le dire et aucune vision de structure médicale, psychologique ou mentale qui puisse les aider. Voilà, donc je finirai par quelque chose d'un peu plus... Bon, je veux dire, quand j'ai dit, je parlais de celui de la voix de ceux qui crient, bon, je trouvais ça extrêmement touchant de dire ça, mais tout à fait pertinent de cette psychiatre qui disait « Désormais, ils vivent auprès de nous, ils ne connaissent pas leur histoire. Autour d'eux, quand le règne un désert de silence, personne ne prend le temps de les écouter. Ils crient leur cauchemar et leur voix singulière est perdue, étranglée de peur et de fatigue. » Heureusement, un autre aspect des choses, c'est qu'elles continuent à se battre. Et je ne vais pas le lire, mais je trouvais important la déclaration des femmes sans papier de l'appel qu'elles ont fait en 2020 pour la manifestation des sans-papiers et qui était survivante de l'exil à la merci des violences que le parcours nous fait subir, nous sommes debout.